L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques, français ou internationaux. Engagé dans une démarche de promotion de l'économie sociale et solidaire, en tant qu'économie défricheuse des nouvelles questions de société, innovante sur les problématiques sociales et environnementales, l'Institut Montparnasse donne aussi la parole à la société civile, aux acteurs des territoires, professionnels et citoyens engagés, afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. Pour les 70, 71, 72 et 73e épisodes du podcast Bâtissons des futurs solidaires, rendez-vous à l'Université de Haute-Alsace autour de la question de la réciprocité dans le soin, de l'alimentation à la santé. Rencontre avec ceux qui mènent des expériences, des apprentissages coopératifs, des observations et études au service du faire commun. Bonjour Soa Damar, bonjour Nicolas Hoth. Vous vous côtoyez au sein du GEM Haguenau, qui est un groupe d'entraide mutuelle prévu par la loi du 11 février 2005. Imaginez sur le principe que toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale. Alors, je m'adresse à vous déjà, Nicolas. Nicolas Hoth, vous êtes membre fondateur d'Azimut, l'association qui a accueilli ce GEM créé en 2015. Pouvez-vous nous faire une présentation? Qui sont les adhérents? D'où viennent-ils? Et quelle est la vocation de ce lieu et son fonctionnement, bien entendu? Présentation générale.
Alors, je crois qu'il est important de recontextualiser un peu l'histoire des GEM. Donc, vous parliez de la loi de 2005-102, effectivement, mais qui vient aussi reconnaître le handicap psychique. Donc les conséquences du trouble psychique sur la maladie mentale, en somme, dans cette réflexion autour des compensations d'accès à la citoyenneté, à la vie en société. Donc les GEM ont été imaginés aussi dans une optique de rupture de l'isolement, qui est une conséquence pour beaucoup de personnes dans la vie, dans le quotidien. Les GEM ont été imaginés comme ça. Et c'est là où on peut repérer déjà un premier paradoxe, c'est que, sans trop le dire, mais principalement, les GEM se tournent autour de l'accueil des personnes aux prises avec des troubles psychiques. Donc, j'en reviens à notre histoire perso, qui est née à partir d'un besoin identifié par les services de psychiatrie et une structure médico-sociale qui hébergeait un SAMSA, un service d'accueil médico-social pour adultes handicapés qui est spécialisé dans le trouble psychique. Donc, ce dispositif... Donc, quel GEM a une particularité aussi, donc ce sont des associations. C'est bien inscrit dans le cahier des charges. Les structures doivent fonctionner sous statut associatif et avec la précision qu'elles doivent être autogérées par ses membres. On arrive à cette question de la double qualité sociétaire bénéficiaire. Donc voilà, à partir de là, principalement au départ, les membres faisaient usage des services de psychiatrie et de santé mentale du territoire. Donc, il était très difficile de se détacher de cette représentation et, peut-être qu'on y arrivera un peu plus tard, mais de cette représentation de la structure comme une espèce de suite logique, comme service supplémentaire sur le territoire pour des personnes qui ont connu une hospitalisation en psychiatrie, qui connaissent une prise en soins à l'hôpital de jour et au CMP. Donc voilà.
Aujourd'hui, Nicolas, combien de personnes fréquentent le GEM, qu'on a un petit peu une idée? Vous êtes donc à Haguenau. Haguenau, on le situe aussi?
Oui, alors, environ 80 personnes sont membres de l'association, donc sociétaires, avec un pouvoir délibératif. Et donc, oui, à Haguenau, au nord de Strasbourg. Une salariée à 15 heures en CDI semaine, une autre à 25 heures et moi à temps plein, oui.
Très bien, je vous remercie Nicolas pour ces premiers éléments importants. Je vais vous redonner la parole, mais je me tourne vers vous, Soa Damar, vous êtes donc présidente de ce GEM, et cela depuis plusieurs années. Vous venez tout juste d'être élue pour un nouveau mandat, alors bravo déjà, première Merci. Chose. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours au sein de ce GEM? Comment y êtes-vous arrivée et comment y avez-vous évolué?
Tout d'abord, mon médecin psychiatre m'en a parlé. Au départ, pendant la création, je ne me sentais pas encore prête de m'engager sur quelque chose à ce moment-là. Et puis, par hasard, un de mes voisins m'en parle, je pense, une année après. et il me proposait de venir avec lui l'accompagner à l'association. Ça a été une belle découverte. Je me suis sentie bien. Je me suis sentie à ma place. Et de fil en aiguille, j'ai adhéré à l'association. Comme je vous disais tout à l'heure, on a une cotisation de 10 euros par an. Les propositions m'intéressaient, les sorties culturelles, les ateliers artistiques, les sorties, par exemple, à Europa Park, ce genre de choses. Mais alors, m'ont permis de sortir de l'isolement, parce que j'étais très, très seule. J'étais arrivée à un point où j'avais peur des autres. J'arrivais plus à m'affirmer. Tout ce qui était, c'était lié à ma maladie, en fait. Et au fur et à mesure, j'ai appris à m'ouvrir, à parler aux autres. Je me suis épanouie.
Et à vous positionner, on peut le dire comme ça aussi, puisque vous avez cette responsabilité.
Oui, maintenant, j'étais 2 ans assesseur de l'association. Du coup, j'ai découvert un peu le monde associatif, ce que faisait le GEM. Ensuite, l'ancien président voulait arrêter et on m'a proposé, plusieurs personnes sont venues me voir pour me proposer de me présenter en tant que présidente. Et là, ça fait 4 ans déjà. Et j'étais réélue il y a quelques semaines, là, le 19 avril, pour 2 ans.
D'accord, donc on peut en conclure que vous vous y sentez bien.
Oui.
Sur le plan des apprentissages, alors vous avez dit que vous avez retrouvé une confiance en vous, vous avez rompu avec une certaine forme de solitude.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres éléments, je dirais, positifs dont vous pouvez parler ?
Oui, mon rapport avec les autres, comme je vous ai dit avant, une facilité d'écoute et les personnes viennent plus vers moi, se confient à moi et je les comprends et j'essaye de leur apporter un peu de soutien.
Alors, vous avez été guidée par cette connaissance qui vous a conduit jusqu'au GEM.
Oui.
Comment vous accueillez les personnes qui viennent et qui ne sont pas forcément accompagnées d'un voisin ou d'un ami ? Comment ça se passe ?
J'essaie de les mettre à l'aise, leur expliquer le fonctionnement, notre accueil, les racines du GEM, pourquoi on est là. J'essaie de les mettre vraiment à l'aise, parce que c'est vraiment difficile de rentrer dans un lieu qu'on ne connaît pas avec des personnes autour de vous. J'essaie vraiment de rassurer et de mettre à l'aise, quoi.
Alors, quand on a préparé cet entretien, vous m'avez parlé de retours que vous aviez de l'extérieur, de retours positifs. Vous pouvez nous en dire 2 mots ?
Oui, on m'a à plusieurs reprises dit que ce qu'on faisait, c'était bien pour la communauté, que c'était important.
C'était qui, ce « on » ? C'est pas forcément des noms, mais donc des médecins, ouais.
Mon médecin, par exemple.
Ouais.
Elle connaît mon engagement et je parle beaucoup de l'association. Elle nous connaît aussi bien, l'association.
Alors, j'ai entendu dire que vous étiez également père aidante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il en retourne ? C'est quoi être père aidante ?
Oui, je suis père aidante depuis peu. Je suis en formation avec l'association Jeff de Strasbourg. Et en fait, c'est un accompagnement individuel auprès de personnes en situation d'handicap psychique, reconnues et sous traitement. Pouvoir au mieux accompagner les personnes au quotidien, accompagner à faire des courses, aller boire un café en ville, une aide au rangement par exemple, une aide administrative.
Cette fonction, cette action, je ne sais pas comment il faut dire, est-ce qu'elle est corrélée, elle est en lien avec le GEM ?
Oui, beaucoup. Au départ, je parlais beaucoup de... Parce que moi, ma maladie, je l'ai su assez tard, à 27 ans. Je ne savais pas ce que j'avais, je ne connaissais pas ses symptômes, je ne savais rien du tout, en fait. Et je me dis, des fois, si je l'aurais su, si on aurait sensibilisé les jeunes aux troubles psychiques, à savoir ce que c'est et en parler, peut-être que j'aurais pu être soignée plus tôt et ne pas avoir traversé ce que j'avais traversé.
Merci beaucoup, Swad, pour votre témoignage. Je me tourne maintenant vers vous, Nicolas. Alors, dites-nous comment est perçu le GEM par les professionnels du médico-social. Quel est votre ressenti ?
C'est assez complexe. Et pour répondre, je pense qu'il faut aussi que je rebondisse sur ce que tu disais, Swad, là. Ces difficultés du quotidien, où les personnes ne trouve pas forcément de réponse, qu'elle soit de cette vie quotidienne, hein, au niveau du logement, de l'administratif, etc. etc. Le GEM est finalement, on parlait de rupture de l'isolement tout à l'heure, le GEM reste un des seuls interlocuteurs de cette vie quotidienne, avec, et on le perçoit aussi nous, avec le mandataire judiciaire, puisque la plupart des membres de l'association sont sous tutelle ou curatelle. Donc c'est un espace donc, de verbalisation, mais aussi voilà, d'expression de tout un tas de difficultés où ben, il y a très très peu de réponses, qui finalement avant étaient plutôt de la responsabilité, ou du moins étaient déléguées au service de psychiatrie publique, dont on est tous témoins d'une forme de démantèlement depuis quelques dizaines d'années. Alors, qui peut faire naître aussi des expériences très intéressantes et qui participent au développement du pouvoir d'agir des personnes concernées, notamment à travers des expériences comme le GEM, quoi. Rappelez-moi la question.
Donc la question, c'était par rapport au médico-social. On boit vos paroles, Nicolas. On coche toutes les cases, effectivement. On a bien noté les trous dans la raquette, hein, comme vous venez de le dire. Alors, c'est sûr que quand on est sur des sujets de psychiatrie, c'est peut-être encore plus important que sur d'autres sujets. Donc, comment vous vous positionnez? Vous avez parlé du seul lieu ou d'un dernier lieu, finalement, où on n'est pas sur un sujet de soins spécifiquement.
C'est ça. Oui, une forme d'accueil. Alors, on questionne souvent cette forme d'accueil inconditionnel, puisqu'on aime assez à dire au GEM qu'on accueille la personne au-delà de son symptôme, au-delà de son diagnostic. Puisque souvent, tant les personnes se caractérisaient par leur diagnostic. Je suis schizophrène, je suis dépressif, et finalement qui vient prendre toute la place et cacher toute la partie, l'autre mosaïque, tout le reste de sa mosaïque existentielle, j'ai envie de dire, de ses désirs, de ses savoir-faire, de ses compétences qui sont enfuies pour tout un tas de raisons, mais qui peuvent, au GEM, être... reprendre forme dans le lien à l'autre, dans la rencontre, quoi. Alors, dans la perception, justement, et là, c'est très important, donc, c'est encore très difficile avec les partenaires du territoire qui considèrent le GEM non pas comme un lieu d'orientation, de prise en charge ou de prise en soin, mais comme un lieu de libre adhésion et de libre circulation. C'est-à-dire que c'est à la personne de décider si elle souhaite venir ou non, peu importe, j'ai envie de dire, son état de santé psychique. Peu importe si elle est... Alors c'est là où c'est très délicat. On peut même parler parfois de stabilisation qui conditionnerait l'accueil dans un GEM. Mais c'est très délicat, ça, puisque quand une personne arrive, on ne lui demande pas une prescription, on ne lui demande pas une ordonnance, une notification MDPH. Voilà, on propose simplement de venir découvrir l'association, et ensuite, si elle le souhaite, d'y adhérer. Les infos, c'est quoi? C'est le nom, prénom, date de naissance, adresse, et voilà. Donc là, il y a encore tout un travail à mener sur la libre adhésion des personnes à participer, à s'inscrire dans la vie, dans le lieu.
Dans un espace...
C'est ça.
De libre circulation, ça aussi. Votre lieu fonctionne sur l'autogestion et la double qualité adhérent-bénéficiaire. Qu'est-ce qui est particulièrement positif dans ce fonctionnement et qui pourrait éventuellement bien fonctionner également pour un centre de santé communautaire, par exemple?
Déjà, beaucoup de partage, beaucoup de témoignages. C'est très important... comment les gens perçoivent leur maladie, comment ils se sentent à l'extérieur. Souvent, on nous parle de jugement, beaucoup de jugement. Les personnes qui viennent au GEM, vraiment, on les prend comme ils sont. Souvent, au début, je disais, moi, je laisse ma maladie au pas de la porte. Je rentre, voilà, je suis moi, je suis Swad, je suis pas schizophrène, je suis pas bipolaire, je suis moi-même, je suis une personne à part entière. Et... il y a peut-être un jeu de pouvoir qui peut s'installer par rapport aux salariés, aux membres du bureau, aux membres du conseil d'administration. J'ai perdu le fil.
Alors, je vais vous le rappeler. Un enjeu de pouvoir qui peut s'installer. Voilà.
Entre le bureau, les salariés. Dans l'histoire du GEM, Nicolas a vraiment cette empreinte de fondateur. Fondateur, oui. Et souvent on se tourne vers lui si on a des questions, si on a des requêtes, etc. Et de plus en plus, on peut venir vers moi maintenant. On peut venir se confier, demander quelque chose. Enfin, j'essaye aussi d'être partie intégrante de l'association.
Donc
aussi, sans avoir le statut de salarié.
D'accord. Donc c'est pas une relation de pouvoir, on est plus dans une certaine forme d'horizontalité, même si on reconnaît que certains ont des casquettes particulières, qu'ils ont été fondateurs, parce que vous savez un certain nombre d'années que vous êtes là et que vous êtes passé effectivement par différentes étapes, notamment celle qui vous a conduit à la présidence. C'est en fait ça. Et donc pour vous, ça peut fonctionner, c'est une base de fonctionnement qui pourrait être tout à fait ajustable à d'autres structures, d'autres lieux.
Je pense que les adhérents, enfin, je ne sais pas si c'est à cause du trouble psychique, mais pour la confiance à l'autre, c'est un long cheminement. Faire confiance aux autres, quand la statut de salarié, de professionnel, la personne sera peut-être plus à l'aise. Maintenant, moi, je fais des permanences, par exemple, le lundi, il n'y a pas de salarié. Ça se passe super bien, il n'y a pas... On ne me demande pas où est Nicolas, où est Léonore. Enfin, si on a des questions à me poser, si on a des requêtes, on me les demande à moi, moi, en tant que personne et en tant que présidente.
D'accord. Merci, Swad. Alors, Nicolas, il est là avec nous. Oui. Donc, je me tourne vers lui.
Mais
allez-y. Est-ce que vous pouvez nous faire une espèce de conclusion, très nourrie, bien entendu?
C'est très juste, Swad. Enfin, je ne peux que rebondir sur ce que tu viens de dire au niveau des enjeux de pouvoir. Les enjeux de pouvoir et tenter d'essayer de réfléchir. Alors, en ça, les GEM sont très intéressants parce qu'ils laissent cette liberté-là. De réfléchir et de penser ces relations de pouvoir, d'où ils viennent et comment on peut les transformer. Alors déjà, de fait, on le disait tout à l'heure, le GEM est autogouverné. Ce sont les membres de l'association qui, par ailleurs, font pour la plupart usage des services de psychiatrie ou de santé mentale qui gèrent cette structure du point de vue de sa gouvernance avec un financement qui provient de l'ARS. Mais les marques, les stigmates de la relation aux professionnels continuent d'exister. Hein, d'une histoire, on parlait tout à l'heure du lien avec le mandataire judiciaire, de l'histoire avec les différents travailleurs sociaux, soignants qu'on a pu croiser, et de la liberté de décider qui a pu trouver une place dans toute cette histoire et ce cheminement. Donc quelque part, le salarié de GEM, il incarne un peu ce truc-là du savoir et du pouvoir. Bon, et comment est-ce qu'on transforme ça? Ce qu'on tente, quoi, hein, c'est l'accès à l'information, c'est venir à des journées d'études comme celle-là, c'est de se documenter, c'est de penser, c'est de mettre en mouvement toujours ces relations de pouvoir qui sont inhérentes cette double qualité sociétaire bénéficiaire, elle a cet intérêt-là, c'est qu'elle permet de déposer sur la table tout un tas de sujets qui habituellement sont causés que par des spécialistes, quoi. Et que quand c'est sur la table, chacun a la liberté de s'en saisir et de faire avancer, de faire cheminer et de transformer ce lieu et par extension la cité, parce que c'est un peu quand même le travail qu'on tente de mener autour de l'image encore véhiculée par la maladie mentale. En ça, c'est très intéressant et je pense que ça peut, peut-être être inspirant pour d'autres structures. Mais ça se situe évidemment là, dans la réflexion autour des relations de pouvoir. Ouais.
Merci, Ola Hoth. Merci infiniment, Swad Amar, pour
vos
témoignages. Je rappelle que vous vous côtoyez, c'est le terme sur lequel on s'est mis d'accord en début d'interview, au GEM à Guenot. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci.
Merci à l'Université de Haute-Alsace. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.